Du 25 au 29 septembre, au cœur de Manosque, c'est la 26e édition du festival Les Correspondances. Retrouvez sur Fréquence Mistral les interviews et reportages dans les matinales et les magazines pendant toute la durée de l'événement. Et samedi 28 septembre, de 10h à 16h, Fréquence Mistral sera en plateau extérieur, place des Marchands, pour recevoir des auteurs, des représentants d'associations, des membres de l'organisation et des lectrices et lecteurs. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Fréquence Mistral.
Au programme de ce vendredi 27, des correspondances à Manosque à 10h30.
Lancement du prix littéraire des adolescents du département. Rencontre animée par Salomé Kinner.
Une rencontre qui se situera place de l'Hôtel de Ville. Et à 11h...
Apéro littéraire avec Claudie Hunzinger et Alexandre Leneau. Animé par Nathanaël Coriol.
Et ce sera place d'Herbès à 14h.
Karaoké littéraire.
Place Marcel Pagnol. Venez lire et écouter des textes solo en groupe avec le comédien Raphaël Franz Kuhlmann, accompagné en musique par Martin Mohr. 14h30.
Sieste littéraire par Bastien Lallemand, Maëva Lebert, J.P. Nataf avec Philippe Génada.
Ce sera dans la petite salle du théâtre Jean Le Bleu, s'allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival pour 60 minutes de chansons et lectures. À 15h.
Elliot Ruffel et Anatole-Édouard Nicolo, rencontre animée par Salomé Kinner.
Ce sera place de l'Hôtel de Ville. Puis à 15h également.
La grave de Marilyn Débiol, rencontre animée par Yann Nicole.
Et cette rencontre se déroulera place Marcel Pagnol. À 15h encore.
Abigail Assor et Alexandre Leneau, rencontre animée par Sophie Joubert.
Ce sera place d'Herbès. À 16h30.
Julia Deck et Eliane Gaudier, rencontre animée par Elodie Karaki.
Place de l'Hôtel de Ville. Et place Marcel Pagnol à 16h30 également.
Bernard Comand et Mathieu Larnaudy, rencontre animée par Yann Nicole.
Et 16h30 encore.
Célestin Demeus et Estelle Rocchitelli, rencontre animée par Maya Michalon.
Et ce sera place d'Herbès à 18h.
Guillaume Périlou et Christophe Bigot, rencontre animée par Sophie Joubert.
Place Marcel Pagnol.
Le club des critiques de la MRF avec Maïlis Descarangal, Chabi Moulia, Jérôme Ferrari et Alice Zeniter.
Et ce sera à 18h30, place de l'Hôtel de Ville, à 19h.
Fabriquer une femme de Marie Dariussec, lecture musicale par l'autrice accompagnée de Bill Bellegarde.
Et ce sera à la capsule. Ensuite, à 21h.
Lecture « Lettre choisie » de Stieg Dagerman par Nicolas Maury.
Un spectacle qui se tiendra dans la grande salle du théâtre Jean Le Bleu. À 22h30, enfin, pour ce vendredi.
Memento, chanson autour de Modiano par Dominique A, Stéphane Oliva, Sébastien Boisseau et Sacha Touroup.
Ce sera dans la grande salle du théâtre Jean Le Bleu, un concert littéraire en forme d'hommage à l'un des plus grands écrivains français de notre temps, célébré universellement pour son art de la mémoire. Et bien sûr, retrouvez également le festival OFF dans le programme, est à retrouver sur le site Les Correspondances.
And where have you been, my darling young one? I stumbled down the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a high, and it's a high, and it's high. And it's a hard rain. It's gonna fall. Oh, what did you see, my blue eyes? And what did you see, my darling young one? Saw a newborn baby with wolves around. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. It's a high, it's a high, it's a high, and it's a high. It's a high rain. It's gonna fall.
Sagne, merci d'être dans nos locaux de Fréquence Mistral à Manosque en ce deuxième jour du Festival des Correspondances, c'est la 26e édition. Vous avez un rôle important dans l'organisation de ce festival, de quoi s'agit-il ?
Bonjour, merci de m'accueillir ici. Oui, alors moi pour le Festival des Correspondances de Manosque, je m'occupe de la logistique, de l'accueil des invités. Donc je prends la suite presque juste après la construction de la programmation pour voir avec chacun de nos invités comment ils veulent venir jusqu'à Manosque, quel temps il va y passer, et pour organiser le tout le mieux possible pour que la seule chose qui doive le préoccuper, ça soit d'être sur scène devant le public et que tout le reste soit le plus simple et fluide possible.
Un travail que l'on commence en amont, j'imagine. Vous avez commencé à travailler pour cette année depuis quand ?
Les premiers contacts se font au mois de mai, souvent pour les auteurs qui viennent d'un peu plus loin, ceux pour lesquels il y a des billets d'avion ou des tournées un peu plus importantes. Et puis après, le gros du travail se fait en juillet et au retour des congés d'un peu tout le monde autour du 20 août pour finaliser.
Pratiquement, vous occupez à la fois du déplacement, de l'hébergement ?
C'est ça. D'une année sur l'autre, je fais des pré-réservations dans les hôtels à Manosque. Voilà, on a à peu près le même nombre d'invités, d'intervenants tous les ans, donc ça se reporte. Et puis, je fais les réservations de train, d'avion pour absolument tout le monde. Puis, et là ensuite, c'est mon collègue Lionel Henry qui est responsable chauffeur qui prend la suite. On organise le Tetris des trajets entre ex-TGV et Manosque pour aller chercher tout le monde, les conduire jusqu'à Manosque dans les meilleures conditions de confort.
Pour ce qui concerne les écrivains, c'est comme les musiciens, certains ont des demandes particulières ou un peu aberrantes, non ? Ça vous est jamais arrivé d'être confronté à...
Pas tant que ça, ça arrive moins avec les écrivains, effectivement. Bon, après, il y a effectivement parfois des demandes un peu... qui peuvent être un peu surprenantes ou des choses auxquelles on ne pense plus. Mais c'est aussi des gens qui sont beaucoup sur la route, surtout dans cette période de rentrée littéraire. Et c'est vrai qu'il faut avoir en tête que là, c'est des gens qui sont presque jamais chez eux et que de temps en temps, on peut avoir envie d'une chambre avec une baignoire ou des petites choses de ce type-là ou au calme parce que effectivement, ça fait 3 semaines qu'on n'a presque pas mis les pieds chez soi et que ce n'est pas tout à fait le même métier que d'être écrivain, celui d'être sur les routes.
Regarde bien méchant, donc.
Non.
Alors, nous sommes au deuxième jour, je le disais. Tout est prêt ?
Tout est prêt, tout ce qui est prévisible est prêt, et c'est ce qui permet d'être réactif sur les aléas du direct.
Votre titre, en tout cas pour l'occasion, c'est chargé de projets événementiels, mais vous intervenez sur beaucoup d'autres événements également.
Oui, alors je suis chargée de projet à Grenoble pour un autre festival littéraire qui s'appelle le Printemps du Livre, qui, comme son nom l'indique, est plutôt autour du printemps, fin mars, début avril. Je travaille également comme chargée de logistique pour le festival Olé Beaujour à Marseille, donc pas très loin. Et pour la première fois cette année, je me suis aussi occupée de la logistique au Banquet du Livre à La Grasse, dans les Corbières. Voilà, ça fait 3 autres festivals. Et puis, je suis aussi enseignante à l'IUT Métiers du Livre à Grenoble, autour de l'édition, de la communication et de la médiation. Et de temps en temps, formatrice également pour les collègues bibliothécaires. Donc voilà, c'est varié, ça se nourrit.
Vous êtes spécialisée dans la littérature, alors ?
Oui, c'est vraiment le domaine que je maîtrise le mieux. Et un domaine que j'utilise moins ici, mais qui me passionne, c'est la littérature jeunesse, c'est la littérature ado. C'est aussi beaucoup autour de ça que je travaille avec mes étudiants.
Vous parlez d'enseignement, il s'agit de l'enseignement autour de l'édition, alors donc là, ça n'a rien à voir avec la logistique.
Ça n'a rien à voir avec la logistique, oui et non, parce qu'en fait, en logistique, je suis en contact avec toutes les maisons d'édition de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de fois où on n'est pas en contact directement avec les auteurs, ou en tout cas pas dans un premier temps. Donc je travaille avec les éditeurs, avec les attachés de presse, avec les chargés de communication. Donc ça me permet de découvrir plein de choses, d'être à l'écoute, de poser plein de questions et d'avoir l'opportunité d'avoir les réponses très très facilement. Donc c'est ça qui a beaucoup nourri la connaissance que je peux avoir maintenant de l'édition et l'intérêt que j'ai aussi pour ce milieu-là. Et ça me permet de le faire passer au travers de plein de petites anecdotes, de choses très réelles et très actuelles.
À qui s'adresse cet enseignement ?
J'enseigne en métier du livre et du patrimoine, en BUT, l'ancienne IUT, qui est maintenant donc en 3 ans. Et c'est des futurs bibliothécaires, des futurs libraires et pour quelques-uns peut-être des futurs membre de maison d'édition, éditeur, chargé de relations presse, salon, c'est ce public-là.
Et quel est le fond de cet enseignement ?
Alors, à la fois, je leur fais un panorama de l'édition actuelle, donc les grandes maisons, les groupes éditoriaux, les maisons plus petites. Je leur explique ce que c'est que la vie d'un livre et du coup d'un auteur sur une année de la rentrée littéraire jusqu'à la fin de l'année et comment ça se remplit, comment les choses sont en contact, comment on communique autour d'un livre, comment on rémunère un auteur. Pourquoi c'est important quand on veut être bibliothécaire ou libraire d'être attentif, de savoir soi-même faire une veille éditoriale et découvrir des auteurs dont on n'entend pas parler ni à la télé ni dans la presse, et que c'est aussi important de nous savoir les découvrir autrement.
Maëlle, pour ce qui concerne plus particulièrement le festival des correspondances à Manosque, de combien de personnes vous êtes-vous occupée en fait, si je peux utiliser ce terme ?
Ma valeur étalon, c'est la feuille de route, c'est ce qui est le petit document qui leur permet d'avoir à chacun toutes les infos. J'en ai fait 150 cette année. 150 feuilles de route, ça veut dire une grosse centaine de billets de train et quelques billets d'avion, à peu près autant de réservations d'hôtels, puisque par contre, tous ceux qui ont une feuille de route dorment à Manosque. Du coup, 150 pochettes, 100, voilà, c'est à peu près et l'équivalent. Ou presque, on a quelques invités qui viennent en voiture en trajet depuis XTGV.
Et toutes ces personnes, ce sont des écrivains, des artistes ?
Écrivains, artistes essentiellement. Et puis, comme on est quand même un festival très important de la rentrée littéraire, beaucoup d'auteurs viennent avec leur éditeur, leur attaché de presse. Parfois, il y a 2 ou 3 personnes de la même maison, suivant le nombre d'auteurs qui sont invités, donc qui les accompagnent. Et pour eux aussi, même si je ne prends pas forcément les billets de train, parce que là, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. C'est aussi des gens qui viennent pour travailler, donc c'est aussi des gens que j'accueille de la même manière.
Les correspondances sont devenues, au fil du temps, un festival extrêmement connu et reconnu.
Tout à fait.
Vous invitez également des journalistes ?
Il y a quelques journalistes qui sont invités, effectivement. Donc là, pareil, à partir du moment où les gens viennent travailler, mon job, c'est qu'ils puissent arriver en étant le plus serein possible pour faire leur travail comme il faut.
Écoutez, on n'a qu'à vous souhaiter un beau temps, j'espère, parce que ce
oui,
matin,
merci.
Il pleut.
Oui, merci. Ça doit être la seule journée, normalement. Croisons les doigts.
Et donc, les jours où vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ? Vous contrôlez que tout se passe comme vous l'entendez ?
C'est ça, on contrôle que tout va bien, on vérifie les trains, on surveille les retards potentiels, on fait les modifications quand il y en a, voilà. Le début de la semaine est plus particulièrement chargé. Paradoxalement, la fin se tasse un peu parce qu'on est toujours d'une journée en avance par rapport à ce qui va se passer le lendemain pour avoir tout bien ficelé, justement les feuilles de route, les horaires de rendez-vous pour le départ. Donc finalement, paradoxalement, pour moi, le week-end est plus tranquille que le début de semaine.
Maëlle Saigne, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à vous.
Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can't see you, but
Is ringing, they don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low, your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, brother, listen steady, put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know, your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with into the round and get us a rock and roll round? With a down, down, body, body coming with a super hottie, let's go.
Nous sommes dans le formidable jardin du Centre Giono et il y a un écritoire particulier, c'est un écritoire olfactif, c'est ça?
Exactement, sous une gloriette avec des liserons de toutes couleurs. Et voilà, ensuite vous avez des tables de différentes manières, soit en bois avec la tablette qui se rabat, soit en métal, des petites chaises, et tout entouré de verdure.
Et pourquoi olfactif?
Pourquoi olfactif? Parce que justement, on a un parfum et qu'on peut parfumer notre lettre au moment de l'envoi. Et qui permet de personnaliser en fait votre envoi.
On peut rappeler ce que sont les écritoires, c'est-à-dire que c'est des endroits où les gens viennent s'asseoir pour écrire à qui ils veulent.
Exactement. Et les courriers sont offerts par les correspondances et la poste pour le monde entier. Donc vous pouvez écrire de manière...
Continue.
Voilà, merci.
Et sans affranchissement.
Exactement. Enfin, nous, sans affranchissement, mais les correspondances les payent.
Et voilà. En général, les gens qui viennent ici, quelle sorte de lettres écrivent-ils, vous le savez?
Non, je sais
pas. Non. Une année, il y avait effectivement dans cet écritoire particulier, où il y a des parfums, donc beaucoup d'adolescents, de jeunes adolescents qui parfumaient leurs lettres. C'était assez fabuleux. Mais en même temps, ils étaient extrêmement discrets, ils se cachaient un petit peu, mais ils parfumaient. Il y a eu aussi quelques adultes, et ils étaient très, ouais, c'était très touchant, des adultes qui en ont profité. C'est le seul endroit où on repense à parfumer sa lettre. Voilà, ils étaient ravis.
Benoît Véril, vous êtes éditeur, vous avez une maison d'édition à Lille, c'est ça?
Oui, tout à fait. En tout cas, le siège est à Lille.
Vous êtes à la tête de cette maison ou vous êtes plusieurs éditeurs?
Alors non, c'est une maison que j'ai fondée, moi, il y a un peu plus de 16 ans maintenant. Mon amie m'accompagne beaucoup aussi dans ce travail, Marielle Leroy, qui est par ailleurs traductrice, dans une partie du choix, en tout cas, des publications de langue espagnole.
Comment s'appelle cette maison?
La Contralée.
la contre-allée. Et vous avez une spécialité, si on peut dire ça comme ça?
Je ne sais pas si on a une spécialité, mais en tout cas, on est très, très attaché aux littératures contemporaines françaises, de langue française. Et dans le catalogue, il y a aussi une très grosse place faite à la traduction. Beaucoup de traductions, un festival autour de la traduction pour générer du dialogue autour de ces enjeux-là. Une collection qu'on appelle Contrebande, qui est consacrée aux traducteurs et aux traductrices. Des textes qui nous permettent de partager leur expérience, en fait. Ce ne sont pas des essais de traductologie, ce sont plutôt des récits d'expérience, même pas.
C'est compliqué la traduction.
Oui, c'est un enjeu, ouais. Ouais, bien sûr, tout à fait.
Alors aujourd'hui, vous étiez présent à Manos ce matin pour un exercice un peu particulier et très intéressant, intitulé le Labo de l'édition, avec des lycéens. Alors de quoi s'agissait-il?
C'est fou, hein? Vous avez assisté aux échanges? Ah, ok. Alors dans l'idée, c'est de présenter trois manuscrits en amont de cette rencontre, où le nom de l'auteur ou de l'autrice n'apparaît pas, il y a le titre, voilà.
Ce sont de réels manuscrits.
Hein. Oui, tout à fait, ce sont des manuscrits que l'on a reçus, que j'ai choisis en connaissance de cause. C'est-à-dire que je savais qu'on allait avoir des échanges avec des lycéens, des lycéennes, puis des personnes, pour le coup, plus âgées après, ensuite. Mais, et puis aussi, des fois, une contrainte de temporalité. C'est la rentrée, c'était il y a 3 semaines, 1 mois. Donc, le temps. Donc voilà, ce sont 2-3 éléments comme ça qu'on a essayé de prendre en compte pour que se donner le maximum de chances de pouvoir échanger au maximum sur ces textes. Voilà. Mais l'idée, c'est pour eux et elles de se mettre dans la peau de quelqu'un qui serait au sein d'une maison d'édition et qui doit décider de la suite à donner à ses manuscrits, notamment de l'éditer ou pas. Ou mieux encore... qu'est-ce que l'on peut soulever comme questionnement sur chacun des manuscrits et puis d'en parler, d'évoquer. On a pu entendre ce matin finalement des avis assez contradictoires et parfois même finalement qui pouvaient dire on a pu sentir l'oscillation entre ce qui pouvait au préalable être un point de vue négatif et en évoluant dans l'échange et dans la réflexion sur les avis, se transformer comme une nécessité, des fois donc plutôt devenir un aspect positif du texte. Vous voyez, et ça c'est quand même des fois ce qui se passe à la lecture d'un manuscrit, vous partez, vous avancez, un a priori se dessine et puis il évolue potentiellement dans le temps.
D'ailleurs, est-ce que... Plusieurs personnes, c'est une décision collégiale, un tapuscrit, parce que souvent, ils sont plus tapés qu'écrits.
Alors ça, on aurait pu souligner ça ce matin. On a souvent entendu moitié de la classe pour, moitié de la classe contre. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui doit donc trancher, ça c'est ma place. Donc autant je peux solliciter beaucoup d'avis pour contrarier le mien, en général. Qu'il n'y a pas de comité de lecture, je pense que c'est faut assumer ses choix comme ça, c'est plus sain.
Les manuscrits que vous avez donnés à titre d'exemple étaient des manuscrits que vous aviez acceptés ou refusés?
Les trois seront publiés.
Tels quels, tels que vous les
non,
avez
non, pas tels quels. Non, parce que quand j'ai proposé les manuscrits, c'était déjà une génération de manuscrits. On a depuis, pour certains, pas mal travaillé dessus. Donc ça, c'est certain. On n'est pas, on n'arrive pas... Moi, j'arrive aujourd'hui, par exemple, sur le dernier texte transatlantique qui fera l'objet de notre prochaine rentrée littéraire. Ça, c'est un texte qui a déjà beaucoup bougé entre-temps. Voilà. Et d'ailleurs, des questionnements que toutes et tous ont soulevés sont ceux que l'on a partagés souvent avec la personne qui est l'auteur de ce texte.
Et ce sont des textes et des thèmes qui touchent beaucoup les jeunes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses actuelles, selon eux.
Bah, je pense, ouais. C'était un enseignement pour moi ce matin, c'était de voir comment ils allaient... Il et elle réagir sur, au moins notamment sur deux des textes qui pouvaient les toucher, enfin que j'imaginais pouvoir les toucher assez directement.
Ce qui est assez émouvant, c'est les entendre lire ces textes avec pas mal d'emphase.
Bah ça, franchement, écoutez, il y a en plus les lectures en VO, là, ça c'était super pour la traduction, mais surtout d'entendre le texte. J'étais venu l'année dernière par curiosité parce que j'étais très intrigué par ce labo, donc grâce aux organisateurs et organisatrices de ce festival, j'en ai pu faire un aller-retour rapidement et assister au labo. Parce que je me demandais bien ce que ça pouvait donner quand même, discuter de tapuscrits comme ça en public, c'est pas simple. Ça m'avait bien touché ça. Je trouve que là, cette année, le petit cadeau qui est fait à toutes et tous et à moi en premier peut-être, c'est qu'on a donné à entendre les textes. Je trouve qu'on est quand même en France assez balèze pour parler des textes, mais alors on les entend rarement. Vous voyez, sur les rencontres, tout ça, moi je suis plutôt friand d'entendre quelque chose d'abord, que je puisse je sais pas, ressentir. On parle de langue quand même, on parle d'oralité. Donc j'aime autant, moi, si on peut livrer du texte avant d'en parler. Et avant même de parler du texte, de parler de ce que l'on entend, de ce que l'on a ressenti. Et puis voilà, une conversation peut s'installer ensuite. J'adorerais que les rencontres littéraires par ici et par chez moi évoluent en ce sens, en tout cas.
Oui, la lecture, mais c'est quelque chose de très charnel, finalement, la littérature.
Oh bah en tout cas, si les mots touchent tant, des fois, c'est qu'on réagit émotionnellement, physiquement, avec le corps, enfin tout ça, ça réagit. Donc avant d'avoir une réflexion, quelque chose de plus cérébral sur ce qu'on vient de lire, on le ressent. Au même titre que quand il y a quelque chose auquel on n'adhère pas nécessairement, il faut se laisser des fois gagner comme ça. Donc c'est par le champ d'une émotion, on arrive à faire évoluer un discours. Sinon, ce sont des avis arrêtés qui se confrontent. On voit difficilement les lignes bouger comme ça. Donc il faut passer par un autre prisme, quelque chose qui réagit chez nous. Et surtout, cultiver le fait d'être à l'écoute de ça. C'est notre chance. C'est par là que passe l'espoir quand même. Un changement, quoi.
C'est peut-être une des raisons qui pousse autant de gens à lire en France, parce que finalement, il y a beaucoup de lecteurs. Selon vous, vous qui êtes, faites partie d'une maison d'édition, vous vous rendez compte du nombre de lecteurs ou...
Je ne sais pas si je me rends compte du nombre de lecteurs. Je sais qu'il y a toujours l'idée de comment on accède à certains types de textes, quel type de texte on lit. La prescription, elle est déterminante quand même. Voilà, les avis des médias, tout ça, ça compte. Alors nous, on s'appuie définitivement davantage sur la prescription dite des libraires. Et donc, s'il y avait une lutte à mener, c'est de préserver, de nous mobiliser toutes et tous. Je voyais des élus là se déplacer, accompagner le maintien de librairies dans les villes, à différents endroits de la ville, et peut-être de réfléchir aussi finalement à ce commerce où les marges, elles sont tellement faibles, parce qu'on parle de création, là, d'accompagnement de la création, à accompagner certaines démarches dans les implantations, dans les installations, dans la modération des loyers. Ça nous rendrait service à tous et toutes. On parle beaucoup de politique culturelle, d'accompagnement, de subventions, de ceci, de cela. C'est bien les subventions, on est d'accord, mais il y a plein de choses qui pourraient déjà se faire très concrètement en agissant sur l'endroit où on vit. Donc qu'on parle de ruralité ou d'aspect plus urbain. En tout cas, cet accompagnement de ces endroits de rencontre quand même que sont des librairies. La librairie, c'est pas seulement un endroit où il y a des livres sur une table. C'est quand même ça, c'est quelque chose qui matérialise l'endroit peut-être, mais on le matérialise aussi par la capacité, la proposition culturelle qui en émane. Donc vous voyez, c'est difficile aujourd'hui de savoir si on lit plus ou on lit moins. On lit très différemment, ça c'est un fait. Voilà, peut-être que les grands, ce qu'on appelait les grands lecteurs, les grandes lectrices, elles aussi lisent différemment. Pour des maisons comme la mienne où on travaille beaucoup sur les enjeux de création, on est assez dépendant quand même de cette histoire-là. Il y a les grosses prescriptions. Aujourd'hui, on va voir des textes à sortir sur des listes de grands prix littéraires. C'est normal qu'ils attirent la curiosité et c'est aussi normal de suivre des auteurs et des autrices qu'on aime lire. Voilà. Ça crée des choix quand même dans le porte-monnaie. Il faut vivre avec ça. Donc, plus que jamais, on a besoin du conseil pour nous éclairer dans un choix supplémentaire. Voilà. Et pour une maison comme la Contre-Allée, c'est ce choix supplémentaire qui est déterminant. Oui.
Alors enfin, Benoît Véril, la Contre-Allée justement, qu'est-ce que vous allez proposer pour cette rentrée? Est-ce que vous avez des romans à mettre en avant?
Oui, là, on vient de... en parlant au libraire, vous voyez, on est très contents parce qu'hier, on a pu voir un petit peu le palmarès des livres les plus accompagnés, en tout cas conseillés par les libraires dans la fameuse revue professionnelle Livre Hebdo, là. Et donc, La Morelle Noire, un texte de Thérèse Amour, une autrice galicienne, traduite par Marielle Leroy. Ça, c'est notre livre de rentrée. À la rentrée, on ne propose toujours qu'un seul ouvrage, soit en littérature contemporaine française ou étrangère. On met toutes nos forces sur ce texte-là. On parle beaucoup de trop de propositions autour de nous. En tout cas, nous, on se concentre sur ce choix-là. C'est un choix, du coup, assez radical, très, très... très délicat dans le sens où si ça rate, on se fait un peu mal. Hein.
De quoi parle ce livre?
Oh, c'est un texte de sororité. C'est vraiment ces femmes qui se passent le relais où le soin est au cœur du sujet, où on a un personnage qui joue sur les formes, parce qu'on a peut-être un personnage qui est en filigrane comme ça tout au long de l'ouvrage qui s'appelle Descartes. Ce sont des femmes qui ont soit travaillé sur la proposition de Descartes ou autour de Descartes, mais on peut dire qu'il en prend pour son grade, notre ami Descartes.
Benoît Véril, merci beaucoup.
Merci à vous.
Uno, dos, tres, quatorze. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo!
the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how la 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 long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight, broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Sunday, Domingo, Sangre Domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday.
Fréquence Mistral se trouve place de l'Hôtel de Ville pour le labo de l'édition avec Benoît Verhille, animé par Nathanaël Coriol. Alors, le principe du labo de l'édition, c'est mettre le lecteur dans la peau d'un éditeur et de le confronter à... Le principe du labo de l'édition, c'est de mettre le lecteur dans la peau d'un éditeur et de le confronter à un texte inédit. L'éditeur Benoît Verhille n'est pas là pour arbitrer le match, mais pour rappeler la subjectivité de son métier, avec la participation des élèves de plusieurs établissements scolaires.
Donc, dernier tapuscrit transatlantique avec Françoise Broyard et comme comité d'édition Elliot et Jamis pour le lycée Martin Brett, Héloïse pour le lycée international, Léa et Clément pour le lycée Esclangon et Kylian et Jules pour le lycée Alexandra Davinel de Digne. Donc nous allons écouter une brève présentation de ce manuscrit par Françoise et après des lectures. Lilou et sa camarade vont nous lire des extraits de ce texte.
Le docteur Girard est endocrinologue à Paris. Elle est accréditée comme tous les médecins de sa profession à prescrire de la testostérone. Et comme la plupart des autres, elle demande pour se faire une attestation de psychiatre. La transidentité est encore largement considérée comme un trouble mental dans le monde médical et répertoriée comme telle dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM, et dans la classification internationale des maladies CIM. Cette pathologisation irrigue les parcours trans et la plupart des endocrinologues exigent le diagnostic d'un psychiatre comme condition d'accès aux hormones. J'aurais pu passer outre, prendre le temps de chercher un spécialiste qui accepte de déroger à cet usage, mais j'ai voulu aller vite. J'ai fait des examens, trouvé un psychiatre qui, à une séance, m'a signé une attestation de syndrome transidentitaire et pris un rendez-vous dans la foulée avec une endocrinologue. Ce que je n'avais pas imaginé pour cette dernière étape d'accès à la testo, c'est qu'elle aussi voudrait jouer au psy.
Le docteur Girard attend. Tout mon corps refuse l'exercice, mais je me lance quand même. Et bien voilà, depuis très jeune, j'ai toujours eu le sentiment d'être un garçon. J'ai mis longtemps à l'accepter et à le dire, ça a été des années difficiles. Je me sentais mal dans mon corps, mais maintenant tout mon entourage est au courant, y compris à mon travail. Et moi, je le vis bien, à part que j'ai besoin de prendre des hormones pour être en adéquation avec comment je me perçois.
Ce va être Elliot et Jamis qui vont commencer.
Cher auteur, nous sommes la classe de terminale maintenance des véhicules du lycée Martin Brett. À la suite de notre lecture de votre tapuscrit, nous voudrions partager notre avis avec vous. Nous pensons que cette œuvre n'est pas faite pour tout type de lecteur, car le sujet peut être choquant pour les plus jeunes. Le thème est d'actualité, mais parfois, selon le public, il peut être clivant.
Les dialogues étaient bienvenus pour l'immersion dans le quotidien du personnage. Pourtant, nous pensons que c'est une mauvaise idée de l'éditer pour un public adolescent, mais pour des lecteurs plus avertis et sensibles à ce sujet, ce serait une bonne idée. Nous considérons que cette histoire peut être intéressante. Nous avons apprécié de travailler sur votre tapuscrit, il reste malgré tout intéressant et nous vous remercions pour votre écoute.
Kylian et Jules, je vous en prie, dites-nous votre avis.
Donc c'est un sujet qui a fait grand débat dans notre classe, ça a été le plus discuté et donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est un sujet important et d'autres qui pensent que c'est justement inutile parce que Donc bonjour à tous. Pour continuer sur ce qu'a dit Kylian, on pense que l'auteur aimerait en effet nous faire passer un message qui dénoncerait les intolérances et ou peut-être aussi les jugements trop faciles. On pense aussi que cet ouvrage peut aider certaines personnes à passer le cap. Mais dans notre classe de 24 élèves, la moitié de ceux-ci déciderait de publier cette œuvre et la moitié ne la publierait pas. En classe, on a notamment pu étudier le passage du personnage principal et du médecin, qui a également fait beaucoup réagir, car cela nous montre que le médecin évoque une certaine incompréhension envers les personnes, envers le personnage principal, et ne comprend pas forcément la souffrance de ces personnages-là.
Est-ce que Héloïse, voilà, Héloïse de l'école internationale va intervenir ?
Oui, bonjour, donc je suis Héloïse en seconde 1 dans l'école internationale EIPACA. Donc l'histoire se déroule de nos jours. Une femme décide de devenir un homme. Nous allons suivre son parcours. En effet, elle ressent ce besoin de changer depuis l'âge de 10 ans. Pour cela, elle prend l'avion en direction de New York, accompagnée de 3 amis. Ce roman laisse penser que l'auteur l'a écrit pour déconstruire les préjugés liés à la transsexualité et montrer que c'est aujourd'hui encore un parcours douloureux.
Votre éditeur.
Ah là là. C'est vrai, j'ai trouvé que l'énorme pertinence de ce texte, pour moi, sur ce sujet, c'est que c'est un texte qui est construit sur la forme de dialogue. Ce sont des dialogues incessants. Et c'est finalement tout l'enjeu du narrateur, et peut-être même de sa bande d'amis, que d'entrer en dialogue. Ce sont des gens qui entrent en dialogue, qui cherchent le dialogue, qui cherchent à faire évoluer, à faire bouger les lignes, bouger les leurs, parce que là, on ne va pas rentrer dans toute la complexité du récit, mais définitivement, c'est absolument non-binaire. Et je trouve que ces choix-là sont des choix qui sont finalement assez assumés. Alors qu'est-ce qu'on aura fait ? Peut-être on a commenté 2-3 choses comme vous l'avez fait si bien tous les deux quelque part. Mais je crois pas que je parle tout à fait comme ça, mais ça
Jamis, 17 ans, du lycée Martin Brett. Et on vient de faire une intervention sur quelques tapuscrits des auteurs. On a fait quelques remarques pour poser des questions à l'auteur et pour savoir si l'éditeur devait poster ce tapuscrit ou pas, oui ou non.
Qu'est-ce qui t'a motivé pour participer à ce labo de l'édition pendant les correspondances ?
Ce qui m'a motivé, en vrai, c'est parce que y a plusieurs, termes. Genre, y a participation pour tout le monde. Y a les travails en groupe, c'est super bien. Et voilà. Hein.
C'est parti.
Donc, je suis Monsieur Soulard-David, professeur de lettres-histoire au lycée des métiers Louis-Martin Brett. J'ai accompagné donc ce matin avec ma collègue Madame Keller, professeure documentaliste, une classe de terminal bac mécanique, auto et moto. Et en fait, c'était la deuxième année où on participait à cet événement sur les labos de l'édition. Moi, ce que je peux dire véritablement, c'est une véritable expérience dans la littérature, mais une expérience vivante. Et dire que quelque part, ce qui est intéressant, c'est de voir à travers certains tapuscrits qu'ils ont découverts par extrait, attention, hein, puisque nous n'avions que 3 semaines pour pouvoir éventuellement les travailler sur quelques heures, de faire en sorte justement qu'ils soient le plus naturel possible dans la lecture et leurs avis qu'ils formulaient. Donc, on a vu véritablement qu'ils se sont prêtés au jeu. Et surtout, ils ont tenu compte du fait qu'il n'y avait pas qu'eux qui donnaient leur avis. Et donc, ils se sont retrouvés parfois avec les mêmes opinions, les mêmes points de vue sur leur tapuscrit. Et ça les rassure. Parce qu'en lycée professionnel, lire et donner son avis, c'est un véritable enjeu. Quand on sait déjà que pour nous, parfois, on se pose quelques questions.
Comment ça a été reçu par vos élèves, cette proposition ?
La proposition a été très bien reçue. On les valorisait. On leur demandait véritablement leur avis, à savoir si oui ou non un manuscrit pouvait être publié ou pas. Ils ont joué le jeu. C'était un jeu de rôle. Alors c'est pas des élèves qui sont très démonstratifs. C'est pas du théâtre que nous avons fait. Ils ont écrit une lettre à l'auteur en disant simplement, sincèrement, ce qu'ils pensaient.
Je suis Françoise, je suis une lectrice de la médiathèque.
Et le labo de l'édition, c'est quelque chose que nous suivons depuis maintenant 10 ans. Auparavant, c'était simplement quelque chose qui se passait entre lecteurs adultes. Et là, c'est absolument formidable d'élargir ça et de donner vraiment la place aux différentes classes de lycée. Très divers, hein, comme vous avez pu voir. Hein.
Oui, ils étaient très nombreux, d'ailleurs, aussi, dans
très
le public.
Très nombreux, mais très divers dans leurs différentes spécialités, hein, puisque vous avez vu lycée professionnel comme des lycées...
Le lycée international.
Le lycée international, et également des classes spécialisées dans les littératures en première. Voilà. Donc, pour nous, c'est une expérience. Nous allons dans les classes, et c'est vraiment des rencontres autour des livres qui sont... Enfin, moi, qui m'enrichissent beaucoup.
Bonjour, je me présente, Maryse Paul. Je suis bénévole à la bibliothèque de Moustier-Sainte-Marie.
Vous êtes venue pour le festival ?
Absolument, comme toutes les années.
Quel est votre ressenti pour cette 26e édition ?
Pour l'instant, mauvais temps, mais nous espérons beaucoup de notre après-midi.
C'est-à-dire, quel va être votre après-midi ? Qu'est-ce que vous avez prévu ?
Nous avons prévu plusieurs rencontres. Général, avec les écrivains dont nous avons noté, je les ai un peu oubliés, mais ils sont sur mon carnet.
Madame.
Ah ben moi, exactement la même chose. C'est la première fois pour moi et je vais en profiter. Voilà.
Madame, vous êtes la présidente de l'association de la bibliothèque de Moustier, qui s'appelle
L'Ustavu des Libres.
Quel ressenti alors pour cette 26e édition ?
Moi, c'est la première fois que je viens, donc je découvre. Et donc voilà, quoi, je découvre.
Est-ce qu'éventuellement, un jour, vous aimeriez participer ?
J'y ai pas encore réfléchi, je vous avouerai, mais pourquoi pas, oui.
Bon, de toutes les manières, vous allez profiter déjà, voilà, et découvrir ça. Des auteurs.
Déjà, profiter cette année et voir après.
Est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez identifiés, remarqués ?
Oui, on a... On a noté pour cet après-midi trois rencontres qu'on voulait participer.
Lesquelles sont-elles, par exemple ?
Non. Moi, je les ai notées. Là, on a noté « Il neige sur le pianiste ».
Oui. De Claudie Hunzinger.
Voilà, là, on a envie de voir ça. On a envie, là...
Ruben Baruch et voilà, Adela Faya.
Parce que, bah, ils sont bien... Ouais, voilà.
Ils sont très cités.
Oui, c'est ça. Et après, à 18h...
Et le dernier, voilà, me dit votre ami, voilà. À 18h.
À 18h, Philippe Géanada.
De la désinvolture est une
est
bien
une
belle chose.
Bien belle chose. Voilà.
Je vous souhaite une très belle après-midi.
Notre programme de l'après-midi.
Et après ces belles rencontres, nous rentrons dans notre village.
Ok, c'était très bien là-haut, mais c'est juste que ça fait un peu peur parce qu'il y a des enfants en dessous et ça bouge l'arbre et j'ai beaucoup peur.
C'était beau et rien, c'était beau. J'ai bien aimé les chaises de là-haut et ça faisait un peu peur quand on descendait. Ça faisait peur, alors c'était bien, j'ai bien aimé.
Voilà, ils ont à peu près tous le même ressenti. Mais si on parle pas que de celui-ci, les autres écritoires, qu'est-ce que vous en pensez ? Là où il y avait le papillon, par exemple.
Où il y avait le papillon, j'étais déjà allée, mais c'était très bon. C'était... J'aimais bien.
D'accord.
Ben voilà, moi je suis Nathalie, je viens de la Seine-Maritime. J'ai entendu parler des correspondances de Manosque il y a déjà quelques années, puis j'avais vraiment envie de venir. Je trouve l'ambiance très sympathique, il y a un maximum de choses, c'est très éclectique. J'ai eu l'occasion hier d'assister à l'inauguration avec après un auteur qui s'appelle Kalim Daoud. J'ai vraiment apprécié, vraiment. Et ce matin, donc, je participais à un atelier d'écriture qui se trouve dans une petite rue en collimation. Enfin, j'ai eu du mal à trouver, mais j'y suis quand même arrivée. Et c'était super.
Someday, oh dream maker.
Two.